18-20.
Le 18-20 ce soir sur la cyberguerre. Le sujet est à la une aux États-Unis depuis que la CIA et à sa suite Barack Obama ont clairement accusé la Russie d'être derrière les piratages informatiques qui ont semé la panique dans le camp démocrate tout au long de la campagne présidentielle. Difficile d'avoir des preuves tangibles quand les ordinateurs remplacent les armes conventionnelles et que tout l'enjeu d'une attaque informatique est bien sûr de rester discrète. Alors on va réfléchir ce soir aux formes de la guerre numérique, aux puissances qui s'y affrontent, aux risques nouveaux qui en découlent. Les spécialistes du téléphone sonne sont là pour vous répondre jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et laissez-moi vous les présenter. Frédéric Douzet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie. À vos côtés, Kevin Limonier, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'université Paris 8, spécialiste du cyberespace russe. Sujet porteur s'il en est en ce moment. Et on termine ce tour de table avec Bruno Maresco, membre de l'ANSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Est-ce que vous pouvez nous dire juste en deux mots, quel est le travail, le rôle de l'ANSI en France?
Alors l'ANSI est une agence qui est rattachée au service du Premier ministre, qui a une double mission, celle de prévention et celle de réaction en cas d'attaque, et dont les bénéficiaires, dont les clients en quelque sorte, sont à la fois les services de l'État, ainsi que les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire ces grandes sociétés publiques et privées, dont le bon fonctionnement est essentiel pour le bon fonctionnement de la nation.
On imagine l'électricité, les trains, enfin les infrastructures lourdes, c'est ça, c'est...
Tout à fait, exactement. Il y a un certain nombre de secteurs d'activités d'importance vitale, comme vous venez de le citer, l'énergie, les transports, la banque, font partie de ces secteurs, envers lesquels nous avons une action tout à fait particulière.
Vous les informez, vous travaillez, j'imagine, main dans la main. Je ne sais pas exactement ce que j'ai le droit de vous demander.
Alors,
ni ce que vous avez le droit de me dire.
Il n'y a pas de questions distraites, il n'y a que les réponses qui le seront.
Voilà.
Vous pouvez compter dans le champ d'intervention de l'ANSI, d'abord et avant tout une mission de sensibilisation. La sensibilisation, c'est par là que tout commence. Un responsable, qu'il soit public ou privé dans une grande entreprise, sera assez peu enclin à investir dans la sécurité de systèmes d'information s'il n'a pas lui-même compris à quel point le monde a changé et les risques et les menaces dans ce cyberespace sont importants.
Et de là où vous êtes, c'est-à-dire Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est-ce que vous pouvez avoir une analyse globale, disons sur la France aujourd'hui à l'instant T? Est-ce que on est maintenant bien au courant du fait que ces choses-là peuvent arriver, qu'il peut y avoir des menaces, des attaques, ou est-ce qu'on est encore en dessous de la main?
Alors, je veux dire que les émissions comme celles que vous organisez ce soir participent de cette sensibilisation indispensable. Et merci pour cela d'ailleurs. La sensibilisation progresse très nettement. Les gens entendent parler de ces cyberattaques qui font tomber les centrales électriques en Ukraine l'année dernière, qui affectent le bon déroulement de la vie politique outre-Atlantique plus récemment. Les gens entendent parler d'attaques qui conduisent à des écrans noirs sur une chaîne de télévision l'année dernière, TV5 Monde pour pas la citer. Et donc petit à petit, cette conscience progresse et cette compréhension des enjeux indispensables à l'investissement qui doit être rehaussé en la matière. Et donc je peux dire ce soir que les bases s'établissent petit à petit pour qu'on ensemble et que la sécurité numérique étant l'affaire de tous, on construise un écosystème qui permette de résister à ces attaques qui sont souvent de plus en plus nombreuses et de plus en plus dangereuses.
Alors je vais donner évidemment la parole et aux auditeurs de France Inter et aux autres invités du téléphone sonne, mais je profite, Bruno Maresco, de vous avoir sous la main pour vous poser une question vraiment extraordinairement pratique. Est-il vrai que dans chaque attaque informatique d'ampleur, il y a une erreur humaine, nécessairement?
Alors, j'aurais tendance à répondre par l'affirmative, même si...
J'ai cliqué sur le mauvais lien, j'ai répondu au mauvais mail, la clé USB était vérolée. Enfin, est-ce que c'est aussi bête que ça?
C'est malheureusement très souvent aussi bêtes que ça. Les attaquants ont certes plus d'un tour dans leur sac, mais il n'est pas rare que tout commence par l'ouverture malheureuse d'une pièce jointe dont on n'a pas vérifié la provenance, le clic malheureux sur un lien dont on n'a également pas vérifié l'authenticité, et que là, c'est le début du commencement d'une attaque, l'attaquant mettant la main sur le poste de l'imprudent qui a ainsi cliqué, évidemment à son insu, hein, et donc en ayant ensuite tout son temps, si la sécurité est mal faite, pour élever petit à petit ses privilèges, ses droits, sur un système d'information qui parfois fait plusieurs dizaines de milliers de machines, et qui ainsi peut, à partir d'une erreur individuelle, si la sécurité a été mal conçue à la base, c'est-à-dire si elle ne respecte pas des principes de défense en profondeur sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure, si la sécurité a été mal faite à la base, cette erreur individuelle met en péril la sécurité de l'ensemble, et on se retrouve régulièrement avec des situations où les attaquants ont le contrôle complet d'un système d'information, et où il n'est pas rare, j'ajoute facteur aggravant, que les victimes ne découvrent cet état de fait que plusieurs mois, voire plusieurs années après, ce qui est un motif de désolation récurrent.
Frédéric Douzet, est-ce que on vit un moment où ces affaires-là montent progressivement en puissance, ou est-ce que c'est simplement le regard médiatique sur l'objet qui est plus curieux ?
Non, clairement, on vit un moment où ça monte en puissance. On a une multiplication des attaques qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus dangereuses et sophistiquées, mais qui sont aussi de plus en plus visibles parce qu'il y a eu d'une part les révélations d'Edward Snowden en 2013 qui ont mis au jour tout un système de surveillance de masse et qui ont montré l'existence de capacités dont quelques personnes étaient au courant, mais qui, du coup, sont entrées dans le domaine public. Et puis, il y a eu une décision aussi qui a été prise, notamment de la part des États-Unis, qui sont quand même leaders dans ce domaine, de parler beaucoup plus de ces activités, notamment avec le développement de capacités militaires et avec le souci qu'on arrive à pouvoir prédire un petit peu mieux le comportement des États dans le cyberespace. Et du coup, on se retrouve dans une situation où les choses qui jusque-là étaient tues deviennent au contraire des sujets de fanfaronnade. Donc on démontre ses capacités, on lance des attaques qui sont plus visibles, on annonce aussi le développement de capacités offensives parce qu'on ne veut pas être en reste, et puis parce qu'on est dans un processus où, d'une part, on a la multiplication des attaques, mais d'autre part, on se rend compte que ça crée une instabilité importante, parce que beaucoup de ces armes sont utilisées aussi par des individus, par des organisations criminelles, par des mafias, et donc tout ça crée une très forte instabilité. Donc on a en même temps toute une dynamique de discussion, de création, de normes, de comportements responsables des États dans le cyberespace pour essayer de penser les cadres de la sécurité collective dans le cyberespace.
Kevin Limonier, comment avez-vous vécu la campagne présidentielle américaine jusqu'à ces derniers jours où on continue à lire des articles dans les journaux, à apprendre des choses, à voir des déclarations publiques ?
Écoutez, je dois dire que d'une part, c'était tout à fait passionnant dans la mesure où on a vu clairement se développer un discours d'attribution de la menace à l'égard de la Russie, discours d'attribution d'attaque, hein, j'entends par là, qui est aujourd'hui conforté par les déclarations de la CIA, du FBI, mais qu'on a vu se développer même avant l'élection avec l'histoire des fuites d'emails de Hillary Clinton. Et ce que je dois avouer, c'est que cette démarche ressemble beaucoup à une certaine tradition russe qui remonte d'ailleurs même bien avant le cyberespace, puisque on voit ici la patte de ce que faisaient les services de renseignement, notamment soviétiques, pendant la guerre froide ou même avant. Et ce qui est intéressant, je dirais, c'est que nous avons vraiment ici affaire à des cyberattaques qui sont des cyberattaques hybrides. Nous n'avons pas affaire simplement à des attaques sur des infrastructures, nous avons affaire à ce qu'on appelle des attaques informationnelles, c'est-à-dire des attaques qui ont pour but non pas de détruire une infrastructure, mais de déstabiliser une infrastructure sociale.
Oui,
voilà,
semer
exactement.
Semer le doute. Sur la sincérité d'un scrutin. On va y venir On va passer par le Standard d'Inter. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Soyez
oui.
le bienvenu.
Oui, bonsoir à tous. Oui. Voilà, moi, je voudrais bien avoir des preuves de ce qu'on avance là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques ultra-américains qui voient d'un mauvais œil un léger rapprochement avec la Russie et qui sont en train de savonner la planche au nouveau président ?
Très bonne question. Je ne sais pas quelle réponse on va pouvoir vous apporter sur la question des preuves. Alors, qui veut se lancer ? C'est une question difficile. Frédéric Douzet.
Alors, c'est une question qui est très importante parce que effectivement, pour légitimer une riposte de la part des États-Unis, ça serait bien qu'on puisse voir les preuves. Or, voir les preuves, c'est aussi montrer ses capacités. Donc, c'est toujours très délicat dans ce domaine-là. Et pour l'instant, dans la capacité d'attribution, les États-Unis sont les plus avancés. Et de la même façon qu'avec l'affaire des attaques contre Sony Pictures, le FBI ne révèle pas les preuves. Cela dit, je pense que ces attributions ne se font pas du tout à la légère, étant donné des enjeux. Elles ont été faites d'une part par le FBI, certes, mais qui a impliqué un certain nombre d'entreprises qui ont l'habitude aussi de faire ce travail-là. La principale et qui a été la plus visible est CrowdStrike, mais il y en a un certain nombre d'autres aussi, et qui affirment avoir clairement identifié le même type d'attaque que ce qu'elles avaient repéré auparavant
la
en provenance.
Russe, c'est
voilà,
ça.
Donc en leur donnant des petits noms sympathiques comme Cozy Bear
voilà,
et Fancy Bear.
La patte de l'ours. La patte de l'ours.
Donc, c'est, on a un faisceau d'évidence.
Voilà, c'est un faisceau d'évidence d'après ce qu'on a pu lire dans la presse américaine. Les agences ne peuvent pas évidemment donner la preuve, la livrer publiquement, mais disent qu'elles sont au niveau le plus élevé d'informations possibles et de communication possible. Kevin Limonier.
Ben, je vais être un peu provocateur, mais à but pédagogique, il y a la preuve technique et puis il y a aussi le bruit de fond politique. Mmh. C'est-à-dire que les Russes soient derrière ou pas, imaginons hein, ces attaques, il y a une sorte de bruit politique qui s'est mis en marche et qui profite, bien évidemment, alors à Moscou, ailleurs, à certaines personnes qui en retirent des dividendes symboliques, politiques. Et à la limite, l'attribution technique des attaques passe au second plan. Puisque nous sommes dans un univers, le cyberespace, qui est un univers par définition virtuel, où les masques sont très faciles à prendre, où nous ne savons pas quel est le masque et le véritable visage de la personne ou du groupe de personnes attaquant que nous avons en face. On peut lancer une attaque d'un pays vers un autre en passant par des dizaines et des dizaines de points qui sont destinés à brouiller les pistes. Donc nous sommes d'une certaine manière sur un théâtre au sens artistique du terme, puisque il est très facile dans cyberespace de créer, c'est une fabrique à discours qui est à l'avantage de beaucoup d'acteurs russes comme outre-Atlantique.
Bruno Maresco, vous les avez les preuves, vous, ou pas ?
Alors moi, j'ai aucune preuve. Il m'appartient absolument pas de commenter
Ça fait partie des réponses imprécises que vous nous avez promises tout à l'heure.
Non, moi sur le.
Mais sur l'attribution, disons, à telle ou telle puissance de telle ou telle attaque, ça, vous savez faire ou pas ?
Alors, les questions d'attribution sont parmi les plus complexes qui sont à résoudre dans le cyberespace. Pour les raisons que vient d'évoquer Monsieur Limonier, qui sont relatifs au fait que il est excessivement facile de prendre dans cet espace l'identité d'un autre, de réutiliser ses outils d'attaque, de se cacher derrière des chaînes d'anonymisation, pardonnez-moi, qui font qu'il est extrêmement difficile de remonter jusqu'à la source et que donc pour être capable, avec un bon degré de certitude, de pointer du doigt, il est en général nécessaire de disposer d'éléments qui ne soient pas purement techniques. Et en tout cas sur le plan technique, je confirme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vraiment un espace qui se prête très peu à l'identification rapide des attaquants.
Encore un mot, Frédéric Douzet, puis Thierry au Standard.
Oui, puis le résultat, c'est que l'attribution, c'est toujours une décision très politique. Et c'est d'autant plus politique qu'en général, ça appelle une réponse. Donc on peut aussi décider de ne pas attribuer publiquement une attaque, même si on a de très lourds soupçons, ou on peut décider de le faire, même si les soupçons sont légers. Pour des raisons politiques.
Alors expliquez-nous, faites-nous l'explication de texte et Thierry aura la parole juste après. Quand Barack Obama dit c'est la Russie, c'est quoi le message politique ?
Alors, le message politique, c'est d'envoyer à la Russie le signal qu'elle a franchi une ligne rouge, en fait. On a vu qu'il a eu beaucoup de prudence dans son attribution, puisque dès cet été, les entreprises qui ont travaillé sur l'analyse des attaques ont commencé à dire ce sont des hackers russes qu'on connaît qui sont derrière. Il n'y a pas eu d'attribution. Puis, il a laissé le directeur du renseignement dire que les soupçons se portaient officiellement sur la Russie. Mais on n'a pas eu de déclaration présidentielle parce que ça aurait eu un poids trop fort et que pour Barack Obama, le timing était juste impossible parce qu'il craignait une escalade du conflit juste avant les élections et du coup d'être accusé d'avoir lui-même perturbé les élections alors que Donald Trump n'arrêtait pas de dire que les élections étaient truquées.
Alors les élections étant passées maintenant...
Alors il n'a pas pu le faire tout de suite puisque les élections étaient contestées et qu'on avait des manifestations dans tout le pays et donc il ne pouvait pas en plus en rajouter. Il a d'abord commencé à calmer tout le monde, à rencontrer Donald Trump. Et maintenant, il arrive au bout de son mandat. Donc, les États-Unis ne pouvaient pas en même temps dire « c'est un comportement absolument inacceptable, il y a eu une volonté de manipuler notre système démocratique » et puis, derrière, ne rien faire. Mais là, il se trouve un petit peu coincé parce que son mandat donc arrive à échéance. Donc, il peut prendre des mesures exécutives qui relèvent de son autorité, mais qui pourraient être renversées par Trump lorsqu'il arrive, bien que politiquement, ce soit dangereux. Il peut difficilement lancer une attaque. Elle doit rester nécessaire et proportionnée à ce qu'il a subi.
Son successeur dit « personne ne sait si c'est un Chinois, un Russe ou quelqu'un du pays ».
Donc, c'est une situation très délicate et donc très probablement, il va choisir une option relativement discrète.
Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lyon. Soyez
absolument
le bienvenu.
Je vais faire vite parce que je prépare un bon dîner lyonnais avec quelques andouillettes à la moutarde.
Oh, quelle chance.
On arrive.
La question est la suivante. Nos candidats à la présidentielle de 2017 sont-ils protégés des virus informatiques? Et je pense particulièrement à Valls et à Fillon.
Merci Thierry pour cette question. Qui vous revient, Bruno Maresco?
Alors je comprends tout à fait la préoccupation de Thierry, dès lors qu'on vient de parler de la manière dont la vie politique outre-Atlantique a été perturbée par des attaques informatiques. Dans la mesure où nous avons nous-mêmes en France une
élection qui arrive.
Des échéances électorales en 2017. Nous avons, à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, observé ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous avons observé ça avec la plus grande attention. Nous avons, à l'initiative du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, décidé de partager cette connaissance, cette compréhension, avec les partis politiques représentés au Parlement. Et nous leur avons présenté les différents types de menaces auxquelles ont dû faire face le Parti républicain, comme le Parti démocrate d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé au Parti démocrate, mais le Parti républicain, le candidat Trump avait initialement aussi essuyé les Anonymous lui avaient déclaré la guerre en décembre 2015. Nous avons partagé cette connaissance. Et nous avons également édicté un certain nombre de recommandations. On le disait tout à l'heure, adopter une hygiène informatique avec des bons réflexes, ça permet déjà, on a coutume de dire que ça permet déjà d'éviter 80% des attaques et de ne pas tomber dans des cas, de complexifier la tâche de l'attaquant. Voilà, donc les...
Et est-ce que vous allez suivre l'élection et suivre les partis et suivre les candidats au fil des mois qui viennent pour continuer à faire, je dirais, à la fois de la veille et du conseil auprès d'eux, ou vous estimez que c'est aux partis de se débrouiller avec leur structure informatique?
Alors, c'est plutôt la deuxième solution, en fait. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le rôle de l'ANSSI est d'abord et avant tout dirigé vers les services de l'État et vers les opérateurs d'importance vitale. Les partis politiques sont en dehors de cette sphère de compétences. Ils ont les clés en main. Enfin, ils ont la connaissance des attaques qui se sont déroulées. Ils se sont vu rappeler un certain nombre de principes. Ils disposent pour sécuriser leur système d'information de ressources, ils peuvent s'adresser à des prestataires privés. Hein. Il existe en France un certain nombre de prestataires jugés à la fois compétents et dignes de confiance par l'ANSSI, qui sont autant de relais vers lesquels peuvent se tourner les partis politiques, les entreprises qui ne rentrent pas dans le champ de compétences de l'ANSSI, et j'en passe.
Est-ce que vous êtes sur les dents à l'ANSSI, là, en ce moment, un peu tendu avant l'échéance électorale, ou ça va ?
Écoutez, ça va.
Vous avez l'air serein à ce micro, en tout cas.
Nous avons une attention soutenue et permanente.
Je veux dire, c'est pas panique à bord.
Ah, c'est absolument pas panique à bord, non. Ce serait si. Non, nous avons une attention soutenue et continue sur l'ensemble des menaces qui se développent. Et nous ne perdons pas une occasion, lorsque l'attaque se situe à l'étranger, d'essayer de bien comprendre comment celle-ci a pu être perpétrée, afin d'en déduire les actions à mener pour mieux sécuriser nos systèmes.
Sur les élections américaines, est-ce que vous pensez que le doute quant à la sincérité du scrutin est fondé aujourd'hui ou pas ? La question s'adresse à Kevin Limonier, Frédéric Douzet. Allez-y, Frédéric.
Moi, je pense que on a pu établir, en tout cas les services ont pu établir qu'il y avait eu une intrusion dans le Parti démocrate et dans le Parti républicain. Or, les données du Parti républicain n'ont pas été révélées, ce qui est une des raisons pour laquelle la CIA pense que il y a eu manipulation. Ils ont réussi à établir aussi le fait qu'il y a eu publication volontaire de la part des Russes de ces informations. Mais la chose qui est extrêmement difficile, voire impossible à établir, est quel a été l'impact sur l'élection. Et dans une élection aussi serrée, n'importe quel facteur a pu avoir un impact déterminant. Mais est-ce que ça a eu un impact plus important que les déclarations du FBI sur une autre histoire cyber qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui est le fait que Hillary Clinton avait un serveur email privé, ça reste à démontrer.
Déclaration récente, elle a dit que c'était les deux facteurs qui expliquaient sans doute sa défaite.
Il y a énormément de choses qui jouent sur la mobilisation électorale, et on savait que dans cette élection, en raison de la dynamique, la question de la mobilisation électorale, et particulièrement dans certains États, allait être clé. En revanche, il n'y a pas eu de preuve qu'il y a eu manipulation directe des machines à voter.
Il y avait eu des alertes. Hein. Attention, surveillez bien les machines, elles sont piratables. Hein. C'était ça.
Il y avait des soupçons, et c'était la grande inquiétude de l'administration juste avant les élections, que l'intégrité du processus électoral puisse être remise en question.
Kevin Limonier, un mot ?
Alors, vu de Moscou, je dirais...
Vous êtes l'œil de Moscou
ce qu'on peut dire, c'est que alors on ne sait pas de toute façon si ces machines ont été piratées ou pas, mais je dirais que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, dans la mesure où si offensive russe il y a eu, c'est ce qu'on appelle une offensive informationnelle, c'est-à-dire en passant via les réseaux sociaux. La Russie dépense chaque année des sommes faramineuses pour entretenir un appareil médiatique extrêmement conséquent, extrêmement performant, qui utilise toutes les techniques les plus contemporaines pour rendre le contenu viral sur Internet. Donc si influence russe il y a eu sur la campagne américaine, elle est bien à chercher plutôt du côté des médias peut-être que du côté des hackers, même si l'un n'exclut pas l'autre, d'autant plus que dans la stratégie russe, dans la doctrine russe, ces deux pans ne sont que les deux faces d'un même objet qu'ils appellent l'espace informationnel, que nous appelons cyberespace. Ils mettent le contenant et le contenu, c'est-à-dire les câbles et ce qui passe dans les câbles, dans le même sac.
La propagande 2.0 et la maîtrise des outils pour le faire. Je donne la parole à Georges et je vous la rends, Frédéric Douzet, dans quelques instants. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Val-de-Marne, soyez le bienvenu.
À Fontenay-sous-Bois. Ce que je voulais dire, c'est que l'administration des États-Unis est devenue frileuse suite à cette attaque d'un genre nouveau, quand durant un certain nombre d'années, cette même administration américaine a espionné une partie du monde, dont l'Europe et la France, l'Allemagne, l'Angleterre en particulier. Et nous ne savons toujours pas si, au-delà de cet espionnage, il n'y a pas eu des attaques du même genre contre notre administration militaire, même économique. Alors, c'est facile de vendre la culture tout à chacun, pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai. Et même si on l'admet, là, ils sont en train de trier, les États-Unis sont en train de trier, je dirais, aux voleurs.
Oui, alors que ils sont très actifs eux-mêmes, hein, on l'a bien compris, Georges. Merci, Frédéric Douzet.
Oui, alors ce qui est nouveau, je crois, et qui les a beaucoup surpris, c'est la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que s'introduire dans les serveurs d'un parti pour espionner les activités avant une élection ou dans les serveurs gouvernementaux, ça, c'est pas nouveau. On a eu les attaques contre ce qu'on appelle Office of Personnel Management, où il y a eu des tas de données de travailleurs du gouvernement qui ont été volées. C'est considéré comme de l'espionnage à peu près normal. Manipuler une élection ou vouloir manipuler une élection, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une combinaison des outils cyber et de la publication médiatique dans le but de faire basculer une élection. Et ce qui est vraiment, vraiment nouveau pour le coup, c'est que là, ce sont les États-Unis les victimes. Et c'est ça qui les a beaucoup choqués et beaucoup surpris.
Oui, parce qu'en termes de manipulation d'élection et de, dire, de manipulation géopolitique, tout simplement, et d'espionnage, ils sont tout de même les premiers.
Et l'élément dont
ils le pratiquaient avant les ordinateurs.
Dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a eu toute une campagne de fausses informations qui se sont propagées de façon extrêmement virale sur Internet, et où là, bien qu'il n'y ait pas de preuves directes, il y a de forts soupçons sur des hackers russes et des sites des propagandistes russes qui auraient du coup contribué à toute cette propagande pro-Trump.
Kevin Limonier.
Oh bah, c'est même pas des soupçons, c'est-à-dire que quand on regarde certaines plateformes informationnelles russes comme Sputnik par exemple, elles relaient allègrement, alors pas forcément des fausses informations, mais disons des informations déformées, tronquées, éclairé sous une certaine lumière. C'est pas non plus les seuls à faire ça, il faut bien le dire. C'est juste que les Russes bénéficient d'une artillerie lourde numérique, cyber, extrêmement performante, avec une compréhension très très fine des mécanismes des réseaux sociaux. Pendant un moment, ils ont eu une sacrée longueur d'avance sur les médias, entre guillemets, traditionnels, dans la propagation des contenus.
Mmh. Frédéric
et notamment, ils ont compris très tôt, en fait, au départ, la propagande était essentiellement anti-Clinton, et personne n'y prêtait attention. Et donc, ils ont fini par comprendre qu'il fallait ajouter une dose de Trump, parce que ça a attiré beaucoup plus l'attention, pour arriver à rendre ces contenus viraux, et ça a très très bien fonctionné.
Bruno Maresco, est-ce que c'était l'un des aspects de la question de Georges? Je vais la reformuler de la manière suivante. Est-ce que vous avez lu d'un œil attentif tout ce qui a été publié suite aux révélations Snowden, pour savoir si les Américains, nos alliés, étaient entrés dans certains de nos systèmes?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons un suivi très attentif de tout ce qui se passe à l'étranger en matière d'attaque, toute la cyberactualité, si vous voulez. Hein. Et nous avons évidemment connaissance de tous les documents qui sont publiés en source ouverte, de quelque origine qu'ils soient, dès lors qu'ils sont rendus publics sur Internet. Ça permet de se faire une idée plus précise de ce que sont les capacités des uns et des autres. Nous prenons un soin tout particulier à ne pas nous laisser intoxiquer non plus, hein, par des sources qui pourraient chercher à nous détourner de l'objectif. Je peux confirmer ici que nous avons une lecture attentive
de tout ce qui paraît,
de tout document à un moment ou à un autre posté sur Internet, et qui traite de près ou de loin d'attaques, de mécanismes et de failles de sécurité en tout genre.
Jean-Paul, bonjour. Jean-Paul, vous êtes en ligne.
Allô?
Oui, vous nous appelez du Calvados. Mille excuses pour les 20 minutes d'attente au standard. Vous avez la parole.
Bonsoir, est-ce que ça fonctionne bien? Parce que moi, je ne vous entends pas très bien.
Ça fonctionne parfaitement bien.
Alors, en fait, ma question portait sur certains articles concernés dans certains magazines qui disaient que nos services de sécurité, est-ce que je sais moi, l'armée, ces choses-là, ont renouvelé leurs abonnements chez Windows. Est-ce que réellement nos services publics utilise Windows comme système d'exploitation, ce qui serait en soi une espèce de catastrophe, quoi.
Merci pour cette question, Bruno Maresco, sur les logiciels
Bah alors, au risque de décevoir votre auditeur, je peux confirmer qu'une partie de l'administration utilise des logiciels édités par la société Microsoft. Une autre partie utilise aussi des logiciels libres, au sens où le code source de ces logiciels est disponible ouvertement sur Internet. Ce n'est en rien synonyme de faille dans les dispositifs de sécurité.
Il n'y a pas des portes cachées derrière qui permettent à qui que ce soit d'entrer.
Vous pouvez toujours construire un système d'information avec des briques qui sont réputées de confiance moindre pour en faire un système sécurisé. Il suffit d'avoir une analyse, il suffit entre guillemets, c'est vite dit, mais il faut avoir une analyse précise des risques auxquels on s'expose en utilisant des composants dont on ne maîtrise pas tout, pour éviter de faire reposer la sécurité de l'ensemble sur ces composants qui sont de confiance
relative.
Variable,
ouais. Hein.
Une fois que vous savez comment une fois que vous savez faire une recette à partir de composants qui sont de confiance et des composants qui sont moins de confiance, vous savez normalement bâtir un système d'information sécurisé qui respecte un certain nombre de principes. J'évoquais tout à l'heure la défense en profondeur. Nous sommes à l'ANSSI très attachés à ce concept. Il s'agit de construire différents remparts, différents niveaux de protection, de sorte que une erreur individuelle, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui clique malheureusement sur un lien ou sur une pièce jointe qui est infectée, ne fasse pas tomber avec lui toute la sécurité du système derrière. Et donc ça veut dire avoir conçu le système de telle sorte que le feu, si on peut prendre une analogie avec les sécurités incendie, le feu ne se propage pas au-delà des compartiments, des portes anti-coupe-feu et que les dégâts soient contenus. Une fois d'ailleurs qu'on les a eu détectés, ce qui est un autre sujet.
C'est ça qui est difficile, j'imagine, par rapport à des virus classiques et des antivirus classiques sur les ordinateurs de tout un chacun. C'est la discrétion et le caractère malin de ces virus-là, qui sont invisibles.
C'est pour ça que la bonne défense que nous organisons à l'ANSSI passe par une connaissance la plus fine possible de la menace afin d'être en mesure de détecter les menaces les plus avancées et d'y répondre dans les meilleurs délais. Donc c'est prévention pour éviter d'être exposé, capacité à détecter pour aller très vite lorsque l'attaque arrive et capacité à bien réagir en ne confondant en général pas la vitesse et les précipitations.
Frédéric Douzet.
Oui, juste au risque peut-être de vous surprendre, mais l'administration chinoise travaille également avec Microsoft, qui est considéré comme un partenaire de confiance. On est sur une entreprise qui est vraiment mondiale et qui prend la sécurité très au sérieux, au risque d'être dans des conflits parfois avec son gouvernement, comme on le voit pour l'accès aux données des utilisateurs qui sont stockés en Irlande. On a un bras de fer qui est énorme en ce moment entre le ministère de la Justice américain et l'entreprise Microsoft sur ce sujet-là. Et l'entreprise cherche aussi à promouvoir des normes qui lui permettent de défendre son modèle économique.
C'est ça,
qui est la confiance des utilisateurs.
Voilà, vendre des logiciels vérolés, ça ne rapporte pas d'argent.
On perd vite ses clients, donc il y a une vraie tension qui
Il y a un intérêt à la sécurité. Un intérêt économique au-delà des idéaux.
Mais bon, il faut aussi être clair, Microsoft équipe 90% des ordinateurs dans le monde.
Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez Gironde.
Exactement. Moi, je suis un peu étonné par le discours de la NSSI et par le discours ambiant. Je pense que c'est vraiment l'angélisme. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Pierre Bélanger, La souveraineté numérique.
Oui.
Qui est un excellent livre. Sans vouloir faire de la diabolisation, tous les ordinateurs d'administration française, c'est une recommandation de la NSSI, font des mises à jour de sécurité pratiquement tous les soirs, au moins une fois par semaine. Si un jour un gouvernement américain décide d'envoyer une mise à jour malicieuse sur un seul pays, via le code pays ou via des licences, il peut tout à fait le faire, donc mettre en panne tous les ordinateurs d'un pays. Alors Microsoft est une société commerciale, certes, mais n'empêche qu'elle dépend du gouvernement américain. Et voilà.
Enfin, vous êtes informaticien, Olivier ?
Voilà, moi je suis informaticien responsable informatique dans une collectivité locale. Donc j'applique le RGS, un référentiel général de sécurité qui est promu par la NSSI. Et je m'étonne vraiment de ce discours complètement angélique de Microsoft, enfin à propos de Microsoft ou d'autres compagnies américaines. Et je me demande pourquoi la directive de Marc Ayrault n'a pas été respectée, pourquoi le livre de Pierre Bélanger n'a pas plus d'écho dans l'administration française, et pourquoi seule la gendarmerie française, à ma connaissance, utilise des logiciels libres et pas le reste de l'armée, par exemple.
Est-ce que vous préconisez justement le logiciel libre par rapport au logiciel que vous avez décrit ?
Alors moi, je suis effectivement promoteur et membre d'une association qui essaie de valoriser le logiciel libre dans l'administration. L'administration le fait ou pas, enfin ça c'est la responsabilité des élus, mais d'une façon générale, les logiciels libres dans l'administration sont absolument pas encouragés. Il n'y a qu'à voir le dernier l'équipement de toutes les écoles de France par des logiciels Microsoft, sans même un appel d'offres. D'ailleurs, je crois qu'il y a un recours en ce moment. L'armée française a continué à acheter du logiciel Microsoft sans appel d'offres non plus. La circulaire Ayrault n'a jamais été respectée. Mmh. Il y a quelques collègues dans l'administration d'État qui essayent d'animer un groupe pour favoriser le logiciel libre. Ils n'ont aucun moyen. Enfin bref.
Bien compris, Olivier.
On fait tout pour que Microsoft et les autres sociétés américaines ou étrangères face de l'Europe et de la France en l'occurrence, un nain dans ce domaine-là.
Merci Olivier pour cette intervention. Bruno Maresco, la conclusion très rapide, vous pouvez rassurer Olivier ou pas ?
Moi, je peux dire que réduire la sécurité informatique à une opposition entre le logiciel libre d'un côté et Microsoft de l'autre, c'est une vision peut-être hyper séduisante, mais qui n'a pas beaucoup
l'idée
de sens.
L'idée, c'est en dernière instance, en cas de crise, est-ce que les Américains X, Y ou Z peuvent appuyer sur le bouton et mettre en carafe tout ce qu'on a chez nous, Frédéric Douzé ? C'est aussi ça la question d'Olivier.
Oui, mais la question, il faut la ramener sur le terrain politique. Quel serait l'intérêt des États-Unis de faire ça ? Ce n'est pas parce qu'on a ce pouvoir-là qu'on va le faire, et aucun État jusqu'à présent n'a utilisé sa pleine puissance nucléaire pour en détruire un autre. Donc, de la même façon, je ne vois pas quel serait l'intérêt des États-Unis à faire ça. Et la question de la souveraineté dans le cyberespace, et pas de la souveraineté numérique, de la souveraineté dans le cyberespace, c'est une question qui est extrêmement importante, mais qui est aussi extrêmement complexe.
On va refaire un téléphone sonne, j'ai l'impression, et même plusieurs sur le sujet. Merci à tous les trois, Frédéric Douzé, Kevin Limonier, Bruno Maresco, d'y avoir participé. Merci aux auditeurs d'Inter. On est en retard.